Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ils n'étaient pas toujours sérieux. Ils aimaient se faire des blagues entre eux et surtout en faire aux mortels, qui étaient sans défense. L'humour va bien avec la divinité. Un grand dieu peut rire sans risque d'un petit dieu. Un petit dieu peut se venger un instant, à ses risques et périls, en tournant un grand dieu en ridicule. Quant aux humains faibles, mortels, ignorants, tous les dieux pouvaient en rire autant qu'ils voulaient. Dieux et déesses sont tellement supérieurs. Pour montrer leur pouvoir, les dieux n'ont pas besoin de faire toujours dans le tragique, dans la terreur et la souffrance, ni même dans la pitié et la compassion. Les mortels méritent bien qu'on se moque d'eux. Les dieux, les bienheureux comme on les appelle, sont faits pour le plaisir.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Mais les mortels le leur rendaient bien. Après tout, toutes ces histoires de dieux moqueurs, rieurs et aussi trompés, humiliés, ridicules, ce sont des humains qui les ont inventées. Et si ces humains croyaient que ces histoires venaient des dieux eux-mêmes, qu'elles étaient vraies, parce que transmises par les déesses muses, les humains prenaient un grand et malin plaisir à les répéter, à les colporter inlassablement, dans les villes et villages, partout, de fête en fête, dans des poèmes, dans des spectacles grandioses où on s'esclaffait avec toute la liberté que donnent le langage, les gestes, les masques grotesques, les costumes bigarrés. On se disait que les dieux aussi, ces êtres toujours bienheureux, devaient y prendre plaisir. Le rire devenait universel, il rapprochait dieux et mortels à égalité. Tout le monde y gagnait.
Oh, salut à toi, Hermès.
Salut à toi, puissant Zeus.
Me permets-tu de t'aider ?
Un dieu, un fils de Zeus, un dieu qui avait sa place dans l'Olympe, était le spécialiste de la fourberie, de la rouerie qui fait rire. Il en tirait chaque fois un grand avantage. C'était le dieu des voleurs, des échanges, du troc, le dieu des carrefours et surtout un spécialiste de l'invention rusée, cachée. Un surdoué de la technique, un artiste et un rôdeur, prêt à tous les coups. Un Arsène Lupin génial. C'était Hermès, qui est plus ou moins le Mercure des Latins. Il n'est pas sûr que les grandes marques qui aujourd'hui se réclament de lui souhaitent que leurs clients soient vraiment au courant des qualités et des exploits de ce dieu.
Excusez-moi, nous cherchons Hermès.
Écoutez, je sais bien que le client est dieu, mais je m'occupe déjà de la dame. Donc, nous disions un envoi express pour les enfers de 150 drachmes. Parfait, merci ma belle. J'expédie votre colis et je vous dis à la semaine prochaine.
Vous êtes...
Hermès, je suis un tantinet vexé que vous ne m'ayez pas reconnu. Mon amour-propre aurait presque pu en souffrir si je n'avais pas autant confiance en moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un vrai dieu, en sorte.
Hermès était né loin de tout, dans un trou perdu que personne ne fréquentait. Dès sa naissance, il n'eut qu'une idée, ne pas croupir dans ce désert, se faire reconnaître et accueillir par la société des grands dieux. Séjourner dans l'Olympe, être riche, opulent, comme ces dieux officiels à qui, sur les autels, on faisait tant d'offrandes. Comme eux, il voulait avoir des cultes partout. L'humour, avec la fourberie et le vol, lui servira à gravir avec succès les échelons du panthéon grec. Aux dépens, on le verra de son demi-frère Apollon, dieu grandiose, riche, puissant. Alors qu'il avait dépouillé Apollon de quelques-unes de ses vaches, Hermès parvint à le faire rire, à le charmer et par là à faire son entrée dans l'Olympe, sous l'œil bienveillant de leur père commun, Zeus. Cette admission glorieuse a fait qu'on le célébra un peu partout en Grèce. Grâce à ce succès que nous raconterons aujourd'hui, Hermès devint visible sur tout le territoire grec, à la campagne, au carrefour, dans les rues, sur les places publiques, devant les maisons, devant les sanctuaires. Il apparaissait sous la forme de pierres droites, quadrangulaires, sculptées, pierres bien dressées et surmontées de la tête du dieu. Elles étaient à mi-hauteur, ornées d'un sexe masculin bien visible et bien dressé. Ces pierres servaient de bornes, de repères. Elles marquaient des limites, des distances, des croisements de route. Sous une forme plus ancienne, Hermès était célébré le long des chemins par des amoncellements de pierres. Chaque voyageur ajoutait la sienne. Ces amas étaient surmontés d'un sexe viril bien en vue. Il n'est pas sûr que les randonneurs d'aujourd'hui, qui parsèment les chemins, les paysages sauvages de cairns innombrables et sans cesse grossissants, aient le sentiment de participer au culte d'un dieu aussi phallique. Cette manifestation du dieu Hermès, en dieu rigide, taillé dans la pierre, bien immobile et bien implanté dans le sol, est à première vue plus qu'étonnante. S'il y a un dieu qui est par nature mobile, c'est lui, Hermès. Il ne cesse de franchir les limites, de voyager d'un bout à l'autre du monde, avec ses sandales d'or pourvues d'ailes. Il porte au loin les messages des dieux, par tous les temps, dans les lieux les plus perdus et reculés. Il est le messager par excellence. Sur les chemins de la terre, il accompagne les gens, qui il veut, quand il veut, selon son plaisir. Et il les abandonne quand il veut.
C'est Hermès, dit-on, qui a ouvert les premières voies de communication.
Marcel de Tienne.
Hermès a le pas léger. Il chausse les semelles de vent. Il ouvre des voies, mais s'empresse d'effacer immédiatement les traces de son passage. Hermès aime les communications rapides, soudaines, sans fondation ni parcours régulier.
C'est lui qui fait venir les rêves chez les humains. Et quand, à leur mort, les femmes et les hommes ont fini leur voyage, quand leur âme a par la bouche discrètement quitté leur corps, c'est encore lui, Hermès, qui accompagne ces âmes vers leur destination finale, vers le lieu glauque, sombre et triste de leur séjour définitif, vers les enfers, qu'on appelait l'Hadès, c'est-à-dire l'invisible. On lui donne alors un titre très sérieux, mais qui en français me fait toujours sourire. On dit d'Hermès qu'il est psychopompe. Aux âmes, psychai, il sert d'escorte, en grec pompe, d'où nos pompes funèbres. La limite entre monde des vivants et monde des morts n'arrêtait pas Hermès. Il la franchissait comme il veut, dans les deux sens, comme toutes les autres limites. Pourquoi figer dans des pierres solides, carrées, ce dieu qui ne reste jamais en place? Les dieux grecs commencent à nous habituer à ce genre de contradictions. Par là, ils nous obligent à réfléchir, ils nous obligent à voir les faces multiples ou même opposées d'une même chose. Dieu vagabond, Hermès a parcouru tout l'espace dans tous les sens. Il a connu, repéré tous les lieux, toutes les limites qu'il ne cesse de franchir. Mais justement, pour franchir ces limites, il faut d'abord les identifier, les poser. Le Dieu passe. Mais il marque l'endroit où il est passé, comme le promeneur dépose une pierre là où il a marché. Il signale l'importance du lieu qu'il a traversé, il le met en valeur. Et surtout, Hermès était planté debout, immobile au carrefour. Il n'indiquait pas le chemin à suivre, mais il laissait le choix, aller à gauche ou aller à droite. Il était bêtement binaire, si on peut dire. C'est comme en informatique, le binaire, choisir 1 ou 0, ne simplifie pas, ne réduit pas. Au contraire, le binaire ouvre, de carrefour en carrefour, une multiplicité inouïe de possibles. Il libère, comme Hermès. Mais pourquoi le sexe dressé? Un détail qui ne semble pas avoir été repris par l'informatique. Il est vrai qu'Hermès est un dieu particulièrement viril. Il sait engendrer sans respecter les limites qui séparent le divin, l'humain et l'animal. Avec une nymphe dont nous n'avons pas le nom, il a engendré le dieu Pan. Cette tête hybride au pied de bouc, à deux cornes et souriant, qui gambade dans les montagnes et le soir joue de la flûte. Comme parent, Hermès ne respecte pas non plus les limites de genre. Avec Aphrodite, n'a-t-il pas mis au monde le dieu Hermaphrodite? Mais, à propos des très nombreux Hermès de pierre, des spécialistes attentifs et méticuleux ont fait une observation. Le sexe de ces statues était certes dressé, fonctionnel, mais relativement court, mesuré. Cette petitesse était en Grèce un signe d'élégance, de beauté. Elle distinguait les hommes de qualité. Ils montraient par là qu'ils savaient contrôler leurs désirs. Un sexe civilisé. Le sexe, sans doute, indique outre l'amour affiché une énergie vitale, un élan, celui qui fait bouger et qui perpétue la vie par sa semence. Il est sans doute en rapport avec les âmes que le dieu accompagne chez les morts. L'âme, psyché, ce souffle qui quitte le mort par la bouche, était en effet souvent associé par les anciens à la semence. L'âme, pour eux, réside dans la tête, qui est pleine d'une matière blanche, comme la moelle qui descend le long du corps, la semence virile, à la même couleur. L'âme est ce qui donne la vie, ce qui anime et s'en va, laissant la place aux générations suivantes. Hermès était le dieu qui savait gérer cette circulation.
Michel Serre.
Dans la plus haute antiquité grecque, on disait un Hermès pour dire l'espèce de pierre miliaire qui servait de borne Michelin, si vous voulez. C'était la borne ou l'endroit où, précisément, on changeait de direction ou on bifurquait, vous voyez. Et j'ai souvent pensé, en effet, que pour inventer, penser c'est inventer, comme vous le savez, autrement c'est des répétitions, il y avait toujours une bifurcation qui était là, vous voyez. On change de direction, un peu si vous voulez, comme chez Lucrèce, les atomes tombent et tout d'un coup, pom, et ils font une sorte d'écart à l'équilibre, comme disent les physiciens aujourd'hui, et c'est cet écart à l'équilibre qui crée un nouveau monde. Et donc, la présence d'Hermès à un carrefour, le carrefour est vraiment intéressant du point de vue de cet écart, de cette bifurcation, de cette désobéissance, finalement, à ce qu'on pense d'habitude.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe évoque Hermès, le dieu des voleurs et des voyageurs.
Du malin, tu tricotes des stratèges dans le creux d'une falaise, tu brûles tes frasques dans l'aiguille d'être tard. Un pommeau dans la peau du plus haut de ta forme.
Hermès est né dans un endroit perdu. C'était en Arcadie, sur les pentes du mont Silène, une haute montagne du Péloponnèse, un lieu sauvage, couvert de forêts, un lieu de retrait. L'Arcadie, territoire d'Hermès, est devenue dans l'imaginaire grec et antique en général, et même aujourd'hui encore, un havre naturel de paix, un morceau de terre innocente et généreuse d'avant la civilisation. Dans ces forêts touffues, dans ces ombrages, nymphes et satyres pouvaient s'ébattre, en dehors de toute règle. Les bergers y devenaient poètes, et chantaient sur un mode léger leurs histoires d'amour bucolique, histoires tristes ou heureuses. Un lieu idyllique, protégé. Mais d'abord, un monde écarté et sauvage. Hermès est né sur cette montagne perdue du Silène, dans une grotte sombre, loin de tout. Sa mère, la nymphe Maïa, s'y était retirée. Zeus, qui voit tout, l'avait remarqué et désiré. À l'insu de son épouse Héra et profitant de son sommeil, Zeus alla souvent voir Maïa dans sa retraite. Hermès est né ainsi. De cette nymphe Maïa, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle était la mère du dieu Hermès. Maïa est en grec un mot familier, enfantin pour dire la mère, ou maman. On sait aussi que cette Maïa était une fille du dieu Atlas. Il y a là un trait essentiel pour comprendre Hermès et son histoire. Hermès doit beaucoup à cette origine. Si les Grecs ont choisi de lui donner Atlas comme grand-père et Zeus comme père, ils avaient leur raison. Il faut donc dire quelques mots d'Atlas, ce dieu extraordinaire. Il nous fera comprendre d'où vient Hermès, d'où il tire son énergie d'éternel passeur. Atlas était un dieu vaincu par Zeus, un ennemi, frère de Prométhée. Il avait été du côté des titans, de ces dieux d'avant que Zeus a vaincus au terme d'une guerre terrible. Pour le punir, Zeus l'a immobilisé au bord de l'océan, ce fleuve circulaire qui enserre le monde. Atlas se tient à l'extrême ouest, du côté de l'obscur, du couchant. Il doit porter sur ses épaules le poids de l'immense voûte céleste, sans jamais faiblir. En maintenant ainsi un espace ouvert entre le ciel et la terre, il permet aux dieux et aux humains de vivre et d'agir. C'est l'espace que parcourt Hermès dans toutes les directions. Zeus avait bien une idée en tête quand il s'est uni à Maïa, la fille d'Atlas, et quand d'elle il eut un fils, Hermès. Sans doute voulait-il que ce fils nouveau lui procure quelque chose d'Atlas, quelque chose de ce monde ancien qu'il avait confiné dans des limites lointaines, mais qui avait encore un grand prix. Hermès allait apporter dans l'Olympe ce que les enfants déjà nés de Zeus, Athéna, Apollon, Artémis, n'y avaient pas encore introduit. Le règne de Zeus, sans le petit-fils d'Atlas, aurait été incomplet. Et de fait, bien que puni et coincé au bout du monde, du côté des ténèbres, Atlas était précieux pour la vie lumineuse des dieux de l'Olympe. Il la nourrissait. Par exemple, Atlas était le père des Pléiades, ces étoiles que nous voyons dans le ciel. Sous la forme de colombes, ces Pléiades se chargeaient d'apporter régulièrement aux dieux de l'Olympe la nourriture qui les rendait immortels, l'ambroisie. Le parcours était risqué. Pour arriver jusqu'à Zeus, les colombes devaient franchir un seuil périlleux, de grandes roches noires qui bougent, qui ne cessent de s'étreindre, puis de se séparer, les roches dites planctes, roches errantes. À chaque passage, une colombe disparaissait. Zeus devait chaque fois compenser sa perte, à chaque voyage. L'immortalité des dieux devait ainsi payer un tribut à la mort. Au bord de son océan, Atlas était aussi le dieu qui surveillait l'accès au jardin merveilleux des Hespérides, ces filles du soir, enfants de la déesse Nuit, la vieille déesse qui a aussi engendré la mort. On dit parfois qu'Atlas était leur père. Dans leur jardin, qui est pourtant du côté du couchant, du côté des ténèbres, brillent des pommes d'or gardées par un serpent. Le paradis de la Bible n'est pas loin. Or, ces pommes fabuleuses, inatteignables, étaient, comme les colombes d'Atlas, d'une grande aide pour les dieux, quand elles arrivaient jusqu'à eux. On dit qu'elles accroissaient leur bonheur. Lors de son mariage avec Zeus, Héra reçut ses pommes d'or en cadeau. Héraclès, le fils de Zeus, est le seul mortel qui ait pu aller s'emparer de ses pommes pour l'un de ses 12 travaux. Atlas l'avait guidé. On tient là sans doute une pensée profonde, bien ancrée chez les Grecs. Le brillant, le lumineux, la beauté des dieux et du monde visible ont leur origine dans cette zone obscure du réel, zone cachée, sur les rives extrêmes de l'océan, une limite lointaine et ambiguë. Elle est aussi bien le lieu de la mort, de la nuit, de la destruction, que le lieu où naissent et où sont préservées des merveilles, les pommes d'or des Hespérides et l'ambroisie immortelle qui fait vivre. La splendeur naît de l'ombre. Hermès, le dieu brillant, espiègle, connaît bien ce monde obscur et lointain. Petit-fils d'Atlas, il a sa part d'ombre. Il est le seul dieu qui sache faire continuellement le lien entre ce monde obscur au-delà de l'océan et la terre des vivants et des dieux. C'est lui qui conduit les âmes des mortels décédés dans leur demeure définitive sur les bords de l'océan, les enfers, l'invisible Hadès, un lieu triste et sans retour. Ce lieu n'est pas comme l'enfer qui nous est familier, enfin je dis cela par anticipation, le lieu maudit destiné à recevoir pour l'éternité les méchants, les criminels, tandis que les autres seraient dirigés vers le purgatoire, ou mieux encore, le paradis. Les enfers grecs, l'Hadès, accueillaient tout le monde après la mort, toutes les âmes, à part quelques-unes très peu nombreuses, qui avaient droit au plaisir des Champs-Élysées, les vrais dans l'outre-tombe, pas ceux de Paris. À la toute fin de l'Odyssée d'Homère, Hermès conduit dans l'Hadès les âmes des prétendants. Ces jeunes gens, qui en l'absence d'Ulysse convoitaient Pénélope, sa femme, et qui dévoraient ses richesses. À son retour chez lui, après 20 années, Ulysse, passablement en colère, les tue tous, avec son arc infaillible.
Hermès, le dieu du mont Silène, convoquait les âmes des prétendants. Il avait sa baguette à la main, belle, toute d'or. Avec elle, il ensorcelle les yeux des hommes, qui il veut. D'autres, au contraire, il les sort du sommeil. Il la bougeait et dirigeait. Les âmes suivaient avec des petits cris, comme quand, au fond d'une grotte immense, des chauves-souris s'envolent et crient si l'une d'elles lâche le rocher où elle se serrait. Elles vivent collées les unes sur les autres. De même, avec des petits cris, toutes les âmes se précipitaient. Hermès, le dieu étranger à tout mal, les guidait sur les chemins moisis. Ils allaient, passant les flots de l'océan, la roche blanche. Ils passaient les portes du soleil et la contrée des rêves. Vite, ils arrivaient à la prairie d'Asphodèle, où habitent les âmes, ces images des morts.
L'Hadès est sordide, mais il côtoie la lumière, les portes du soleil et le pays des rêves, parfois lumineux. C'est encore Hermès qui conduit les rêves chez les mortels quand il fait le voyage dans l'autre sens.
Qui es-tu? Que fais-tu sur mon chemin? Tu piques ma curiosité, toi qui connais mon nom.
Ne le prononce pas trop haut dans cette forêt. C'est le domaine de Circé. Sa maison est partout, dans chaque arbre, dans chaque feuille. Toi aussi, elle cherchera à te changer en animal, comme tous ceux qui se sont approchés d'elle. Mais elle ne pourra pas. Elle se souviendra alors que je l'avais moi-même averti qu'un voyageur du nom d'Ulysse à ses rives accosterait un jour, apportant avec lui ce que les déesses ne connaissent pas, quelle que soit leur puissance, les désirs, les douleurs, les sentiments et les élans de tous les êtres humains.
Hermès, car c'était lui, disparu dans les bois. Le messager au pied ailé avait pris les traits d'un jeune homme.
T'avait-il dit son nom?
Il n'eut pas besoin, je savais que c'était lui. Et mon cœur battait à se rompre. Je pensais à Circé, au filtre magique qu'elle m'offrirait, et je me demandais sous quel trait elle m'apparaîtrait pour tromper mon esprit.
Hermès connaît aussi un autre lieu du couchant, où se côtoient splendeur et désolation. C'est la grotte de Calypso, sa tante, la sœur de Maya. Comme Maya, Calypso est une fille d'Atlas. Elle habite une île très loin dans la mer, vers l'ombre. L'Odyssée d'Homère raconte comment Hermès, en tant que messager de Zeus, est un jour allé chez Calypso. Il a dû traverser une quantité énorme de mer. Pour cela, il chausse ses fameuses sandales ailées.
Hermès attacha à ses pieds les belles sandales d'or, immortelles, qui le portent sur l'étendue humide ou sur la terre sans limite, aussi vite que les souffles du vent.
Il s'élance depuis le ciel et traverse les vagues.
De l'azur, il tomba sur la mer. Puis il se lança sur la vague. Pareil à l'oiseau goéland qui, au fond des plis terrifiants de la mer sans moisson, chasse les poissons en plongeant dans la saumure, ses ailes drues. Pareil à lui, Hermès fut porté par les vagues sans nombre.
Hermès était en mission. Zeus lui avait demandé d'aller chez Calypso pour lui annoncer qu'elle devait laisser partir le pauvre Ulysse, son amant, qu'elle retenait depuis 7 ans, en lui promettant l'immortalité. Mais Ulysse, qui est une sorte de double humain d'Hermès par l'intelligence, l'énergie, la ruse et l'inventivité, n'a qu'une envie, c'est de reprendre la mer et de rentrer chez lui. Or, cette île de Calypso est à la fois triste et fabuleuse. Le nom de Calypso, dit la mort. Elle est celle qui cache, qui dissimule. Ce nom est à rapprocher du verbe kaluptein, qui veut dire cacher, recouvrir. Homère l'emploie pour dire l'obscurité qui recouvre les yeux du guerrier mourant. L'immortalité que propose Calypso à Ulysse est comme morte. Elle est heureuse, mais répétitive, figée. Rien de nouveau n'arrive. Mais cette île est magnifique, par le parfum de cèdre qui y règne, par la beauté et le chant de Calypso, par la multitude d'oiseaux terrestres et marins, diurnes et nocturnes qui y séjournent, et aussi parce que, en son jardin, coulent 4 sources qui indiquent les 4 directions cardinales de l'espace.
4 sources, côte à côte, faisaient couler une eau lumineuse. Proches l'une de l'autre, elles étaient tournées en 4 sens différents. Autour, des prairies de violettes et de persil fleurissaient. Toute personne qui viendrait là, même un immortel, s'émerveillerait dans ses yeux, serait charmée dans sa poitrine.
L'île de Calypso est un résumé du monde, une perfection. Mais elle est un lieu à quitter si on veut vivre. Hermès aidera Ulysse à en partir.
Hermès, puisque c'est toi qui portes nos messages, pars. Va-t'en révéler à la nymphe bouclée le décret sans appel sur le retour d'Ulysse. Et comment ce grand cœur chez lui pourra rentrer. Sans le concours des dieux ni des hommes mortels, mais seul, sur un radeau de poutres assemblées, il doit souffrir 20 jours encore avant d'atteindre la fertile Skérie, terre des Phéaciens, qui sont parents des dieux. car son destin à lui est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison au pays de ses pères.
De la Combe.
La grotte de Maïa, où est né Hermès en Arcadie, a comme la grotte de Calypso quelque chose de ces lieux océaniques, extrêmes, fabuleux et séparés de tout. Isolés du monde par un océan non de vagues mais de forêts, la demeure de Maïa est à la fois désolante, car loin de toute société, et fastueuse. Comme le jardin des Hespérides, elle est pleine d'or et de beauté. Un jour, un dieu tombe sur la grotte de Maïa. C'est Apollon, le demi-frère d'Hermès. Il est fâché, car le petit Hermès, qui vient à peine de naître, lui a l'air de rien voler 50 vaches. On racontera tout à l'heure cette histoire, que l'on trouve dans un long hymne à Hermès, poème sans doute du 5e siècle avant notre ère. Apollon est stupéfait par ce qu'il découvre.
Apollon, le fils de Zeus et de Leto, reconnut et ne méconnut pas la nymphe des montagnes, Maïa, si belle, et son fils chéri, Hermès, un enfant minuscule, roulé sur lui-même comme s'il avait honte. Apollon scruta tout le fond de la grande maison. Il ouvrit 3 cachettes, avec une clé brillante. Elles étaient pleines de nectar et d'ambroisie qui fait naître le désir. Innombrables, l'or et l'argent étaient partout à l'intérieur. Innombrables, les vêtements de la nymphe, de pourpre et de blanche lisse, comme en contiennent les maisons sacrées des dieux bienheureux.
Cette grotte perdue est en fait un petit Olympe, une perfection, un concentré des richesses les plus fabuleuses, avec le nectar et l'ambroisie, la nourriture d'immortalité des dieux, avec des tissus extraordinaires, tels que seules les déesses savent les tisser. Mais c'est précisément le lieu que le petit Hermès veut à tout prix quitter. Il veut s'en aller de ce trou somptueux mais perdu, invisible, pour courir le monde et rejoindre l'Olympe. Il veut s'y faire admettre et mener la grande vie, là où le nectar et l'ambroisie nourrissent le bonheur des dieux et ne sont pas cachés. La perfection enfermée et dissimulée ne vaut pas le vaste monde, ses rencontres et ses aubaines. Hermès vient de là, de ce lieu extrême, rattaché par sa mère Maïa à Atlas. Beauté et trésor, mais aussi solitude et fermeture y sont mêlés. Maïa n'a besoin de rien, mais elle reste confinée sans que rien ne change. Cette sphère de perfection doit être brisée. Ce sera le premier souci d'Hermès. Il ne va pas aller sur les chemins et se mettre à voler banalement par cupidité pour trouver de l'or. Il en a déjà tant chez lui. Mais par curiosité, pour éprouver des besoins nouveaux. Comme sa maison regorge déjà de tout, il est libre, ouvert. Il ne lui manque que la société, l'échange avec d'autres êtres comme lui, la communication. Mais d'abord, manger. À peine né, Hermès a une subite envie de viande de vache. Ce n'est pas normal pour un dieu. Les dieux se nourrissent de nectar et d'ambroisie. Mais ces aliments sacrés, Hermès en a déjà plein chez lui. Il veut connaître autre chose. Il se débarrasse de ses langes, sort de la grotte, espérant trouver des vaches. Mais devant l'entrée de la grotte, il tombe sur une tortue. Et tout joyeux, il éclate de rire. Il voit en elle la source d'un très grand plaisir. Tout de suite lui vient une idée que personne n'a encore jamais eue. Il rapporte la petite bête dans son berceau, la retourne. Après l'avoir amplement remerciée, il lui enlève la vie, vide sa carcasse qu'il garde. Il taille des tiges de roseau, adjoint des montants à la carcasse de la tortue. Il y adapte 7 boyaux de brebis, tendus comme il faut, 7 cordes, une carcasse de tortue comme caisse de résonance, des montants. Hermès vient d'inventer la lyre. Il oublie pour un temps son envie de viande et se met à chanter. Il improvise, d'abord en rigolant, comme les jeunes gens qui vont dans les fêtes et y font de l'esprit. Il chante sur sa lyre les amours de son père Zeus et de sa mère Maïa, amours qui devaient rester secrètes, mais personne n'est là pour l'écouter. Il chante aussi les richesses de sa maison. Il fait le fier. Mais l'envie de viande le reprend vite. Un désir chasse l'autre. L'art, la poésie, la lyre ne sont après tout que des besoins comme les autres, comme les besoins du ventre. On peut chanter si on a faim, mais pas trop longtemps. Hermès a déjà son idée, même s'il vient juste de naître. Aller voler les vaches d'Apollon, son demi-frère aîné, ce dieu bien riche, propriétaire de nombreux troupeaux. Hermès marche longtemps vers le nord, jusqu'en Pierie, une région au pied de l'Olympe. C'est normalement le séjour des muses, les déesses de la poésie, mais cette fois, ce ne sont que les vaches qui intéressent Hermès. La nuit tombe. Hermès repère les vaches d'Apollon. Il en prélève 50. Puis, avec elles, il se dirige vers sa maison, au sud. Pour brouiller les pistes, il fait marcher les vaches à l'envers. Lui, il continue à marcher droit, mais avec du tamaris et du myrte, il se tresse des sandales étonnantes. On ne peut pas dire si les traces qu'elles laissent sont celles d'un homme ou d'une femme, d'un lion, d'un loup ou d'une ours. Elles sont indéchiffrables. À la fin du jour, Hermès et son troupeau de vaches à l'envers arrivent près d'une étable. Il faut enfin manger. Pour cela, il faut cuire la viande. Et pour cela, il faut faire du feu. Or, personne n'avait encore inventé l'art de faire naître une flamme. Hermès l'invente.
Il amassait une masse énorme de bois. Puis il réfléchissait à la technique du feu. Il prit une branche lumineuse de laurier, il la fit tourner sur du bois de grenadier, la paume bien serrée. Un souffle de chaleur s'éleva. Hermès était le tout premier à produire le feu et les instruments du feu.
Un petit Prométhée rural donc, enfantin, qui n'entre pas comme Prométhée, le frère d'Atlas, dans une lutte gigantesque avec Zeus pour voler le feu et le transmettre. Ce n'était vraiment pas la peine de faire tout ce drame. Hermès allume son feu, tout simplement, par besoin. Pour manger, le nouveau-né assomme 2 vaches. Comme pour la tortue, il les renverse et leur enlève la vie. Puis il les découpe. Il enfile les viandes sur des broches, méthodiquement, et les fait cuire. L'odeur est douce. Hermès veut goûter. Mais il ne peut rien avaler. Son cœur, son gosier divin s'y refuse. Il est un dieu, ça ne passe pas. Les viandes c'est pour les humains. Hermès ne mange pas et passe la nuit à brûler tout ce qui reste des vaches, de la tête aux sabots. Puis il recouvre le feu de cendres, l'air de rien. Hermès vient d'inventer le sacrifice. Toujours à jeun, Hermès s'en va et rentre chez lui. Discrètement, il se glisse dans son berceau et retrouve sa lyre. Sa mère, Maïa, s'en rend compte, évidemment. Elle le gronde. Il lui explique qu'il ne veut pas croupir seul avec elle dans une grotte obscure, mais mener la grande vie des dieux de l'Olympe, recevoir des offrandes. Hermès, innocemment, a-t-on envie de dire, même si c'est un voleur, découvre le feu, découvre la technique du sacrifice, ce découpage précis, presque scientifique des viandes, puis découvre que ces offrandes ne sont pas bonnes à manger pour les dieux. On retrouve là toute l'histoire de Prométhée, du partage du bœuf, de l'utilisation du feu, mais de manière simple, enfantine. Dans cette histoire, le rite complexe du sacrifice dépend de l'appétit vorace et de l'inventivité d'un bambin. La religion, comme l'art avec la lyre, est une affaire d'envie, de ventre et de technique.
Tous vos désirs seront jusqu'à la fin des temps des ordres pour nous. Que désires-tu, beau guerrier ?
Manger.
Manger ?
Bah oui, quoi, j'ai faim. De courir comme ça en plein air, ça me donne faim.
Tu te trouves dans l'île du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger.
Ah bien sûr, c'est un plaisir de manger. Nous sommes bien dans l'île du plaisir, non ?
Soit, soit. Nous avons du nectar et de l'ambroisie.
Nectar et l'ambroisie ? Oh non ! Oh non ! Oh, pas de ces cochonneries !
Nectar et l'ambroisie, des cochonneries ! Mais ce sont les mets préférés des dieux ! Vous êtes des dieux, oui ou non ?
dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle d'Hermès, le dieu fourbe et farceur.
Hermès quittera sa grotte maternelle comme il le souhaitait, mais ce sera par la manière forte. Apollon s'est rendu compte du vol de ses vaches. Il ne se laisse pas abuser par l'inversion des traces des sabots. Il s'y connaît en signe, comme Hermès. Apollon trouve la grotte de Maïa, s'extasie devant ses merveilles, mais en veut surtout au petit dieu qu'il voit tout pelotonné au fond de son berceau. Il lui demande où sont ses vaches. Il le menace de le jeter dans le Tartare, grand lieu d'oubli sous les enfers, un vide immense où on met les dieux rebelles. Hermès nie évidemment, et se dit même disposé à prêter un grand serment au nom de leur père commun, Zeus. Avant de jurer, il prend soin de formuler son serment de manière qu'il ne puisse pas être accusé de parjure. Hermès se dit prêt à jurer que lui, un nouveau-né, n'a pas fait franchir les portes de sa grotte par un troupeau de vaches et qu'il n'a vu personne le faire. Mais on sait que ces vaches, les survivantes, sont en fait restées dans une prairie très loin de la grotte. Au lieu de s'indigner, Apollon éclate de rire devant tant d'insolence. Il prédit à Hermès un avenir de prince des fourbes, puis s'empare du petit. Hermès se débat, lâche un pé. Pour compenser cette vulgarité, il éternue. L'éternuement vient de la tête, là où réside l'âme. Il est un signe divin. Apollon mène son petit frère, toujours couvert de ses langes, dans l'Olympe. Les dieux, Zeus le premier, s'amusent de voir arriver un être aussi bizarre et drôle. Les deux fils de Zeus plaident leur cause devant leur père et Zeus, tout en riant, oblige Hermès à conduire Apollon à l'endroit où sont cachées ses vaches. Hermès s'exécute. Quand il voit les traces du massacre de deux de ses vaches, Apollon ne rit plus. Il entre en colère. Il ligote alors le petit dieu dans des liens serrés, tressés avec des brins de gâtillier. Mais un prodige advient. Le gâtillier qui emprisonne Hermès prend racine, se propage. Il jette ses rameaux sur les vaches d'Apollon et les immobilise. Apollon est stupéfait, abasourdi. Il n'est plus dans son état normal. En fait, Hermès a créé par ce prodige les conditions d'une surprise, une performance musicale. Il sort la lyre qu'il avait avec lui depuis le berceau et commence à en jouer. Apollon est stupéfait une seconde fois, ensorcelé.
Tenant la lyre de la main gauche, Hermès l'essaie avec une baguette, un plectre, en suivant sa mélodie. Sous les doigts, les cordes sonnent d'un son formidable. Apollon Phoibos s'illumine de plaisir. Il rit. Le son de la musique sublime le fascine, pénètre sa poitrine. Un doux désir le prend au cœur quand il écoute. Sur sa lyre, le fils de Maïa joue un air qui fait naître l'amour. Rassuré, il se tient à la gauche d'Apollon Phoibos. Jouant sur les notes claires de la lyre, Hermès chante son prélude avec sa voix qui suscite le désir.
Cette fois, Hermès est sérieux. Devant Apollon, il ne chante pas les amours illicites de leur père Zeus. Mais le chant le plus profond, le plus vrai et le plus complet qu'on puisse imaginer. Le chant qui célèbre la totalité des choses, à la fois les dieux immortels et lumineux et la terre ténébreuse. Hermès chante la naissance des dieux. La part du monde que chaque dieu et chaque déesse a obtenue selon son rang. De manière que le monde soit solide, cohérent, un vrai cosmos. Il chante les exploits des dieux et des déesses. Bref, Hermès chante dans l'ordre toute la mythologie. Apollon est terriblement ému. Jamais il n'a entendu si belle musique ou un chant si prenant, lui qui a pourtant l'habitude de danser avec les muses. Pour la première fois, un dieu de l'Olympe a entendu l'histoire des dieux. Apollon propose alors un marché à Hermès. Contre l'abandon de sa plainte pour le vol des vaches, Apollon demande à Hermès de lui donner sa lyre et de lui apprendre à en jouer et à chanter.
« Cette lyre, qui est l'objet de tes soins, vaut bien 50 vaches, »
dit Apollon. Hermès accepte. Il lui abandonne sa lyre, il ne la touchera plus. Et pour continuer à faire de la musique, il invente tout de suite un autre instrument plus rural, plus en accord avec son Arcadie natale. Hermès n'est pas à un genre musical près. Il peut tout. Il assemble avec de la cire des tiges de roseaux de tailles différentes et crée la syrinx, qu'on appellera aussi la flûte de Pan, du nom de son fils sauvage, le dieu Pan, au pied de bouc. En échange de la lyre, Apollon donne à Hermès non seulement son amitié et ses vaches, mais surtout la baguette d'or, qui sera l'un des outils essentiels d'Hermès. Avec elle, il peut guider ses troupeaux, guider les âmes humaines vers le royaume des morts, vers le sommeil et les rêves, comme il veut. Il peut désigner des issues improbables quand tout semble confus. Il indique aux humains d'un geste précis les volontés de Zeus qui vont se réaliser. Hermès devient le passeur, l'ambassadeur de Zeus, son père. Voilà, un bel happy end. Apollon a désormais sa lyre, c'est-à-dire l'un de ses trois grands attributs avec l'arc et la prophétie. Hermès a maintenant sa baguette d'or. Et Apollon reconnaît en lui un dieu puissant, celui qui règle tous les échanges.
De Zeus, tu tiens le privilège d'organiser tous les actes d'échange entre les humains, sur la terre qui nourrit d'abondance.
Un peu méfiant, Apollon demande quand même à son nouvel ami, dont il redoute l'intelligence chamarrée, de jurer qu'il ne lui volera pas son arc ou sa lyre. Hermès jure. Une belle fin, mais quelle histoire! La musique magnifique qu'Apollon va reprendre et chanter avec sa lyre. Cette poésie qui dit toute la vérité sur les dieux et sur le monde vient d'une affaire de vache, d'une envie de viande et d'un vol. Cette musique envoûtante est un truc qu'Hermès a exhibé devant Apollon en dernier recours pour se sortir d'une mauvaise passe quand il était son prisonnier. Le concert donné par Hermès avait un but intéressé. Cette musique est-elle moins belle, moins vraie pour cela? Sûrement pas. On a dans l'échange entre Hermès et Apollon une vraie réflexion sur ce qui fait la valeur d'un bien. Elle pourrait faire s'interroger nos économistes d'aujourd'hui qui s'écharpent dans des combats de titans sur la question de la valeur. Apollon, en bon économiste orthodoxe, avance d'abord un prix pour la lyre.
Cette lyre, qui est l'objet de tes soins, vaut bien 50 vaches. Ainsi, nous pourrons régler calmement notre différend.
Dans les poèmes anciens, on comptait comme ça, par bovin. Même si à l'époque du poème que nous avons suivi pas à pas, la monnaie existait déjà, depuis longtemps. 50 vaches, ça peut paraître beaucoup pour une lyre, pour un petit objet bricolé à la va-vite par Hermès. Mais en fait, c'est peu. C'est la moitié d'une hécatombe, c'est-à-dire la moitié d'un sacrifice de 100 hécatones bovins. C'est même très peu. Si on se dit qu'Apollon, à qui on offre beaucoup d'hécatombes, acquiert ainsi un objet qui fera à jamais sa splendeur, la lyre. En fait, il ne s'agit pas de payer le juste prix, mais de créer par l'échange une amitié. Elle a lieu. Mais il s'agit encore de plus. Il s'agit de troc. C'est chose contre chose. Et par le troc, la chose échangée va voir sa valeur exploser, devenir immense. La lyre n'était qu'un jeu pour Hermès, la trouvaille imprévue d'un enfant. Quand elle passe du côté d'Apollon, elle devient l'instrument d'un pouvoir gigantesque auquel le dieu tiendra absolument. Apollon va pouvoir charmer les dieux de l'Olympe en leur chantant toute leur histoire. Le plaisir qu'offre sa lyre va confirmer les dieux olympiens dans leur puissance, dans leur nature d'être divin éternellement voué au bonheur. Les humains auront un écho de ce chant divin et harmonieux et apprendront aussi à jouer de la lyre. Ils pourront définitivement chanter les dieux et le monde. Apollon fait la valeur de la lyre, alors qu'il aurait été bien incapable de l'inventer. Hermès, l'inventeur de la lyre, n'aurait rien eu à faire de ce nouveau pouvoir musical et poétique d'Apollon. La grande musique, déclamer la vérité, ce n'est pas son genre. Il n'a joué au grand poète qu'une seule fois devant Apollon pour le séduire. Et de même, ce qu'il reçoit en échange de la lyre, les vaches et la baguette d'or valait assez peu pour Apollon. Mais pour Hermès, c'est énorme. Parce que c'est Apollon, son aîné, qui lui a donné ses biens. Hermès a désormais une emprise totale sur tout ce qui circule dans le monde, comme il veut. Ce mythe est, je trouve, fabuleux. En un jour, par une simple opération de troc, grâce au dieu roublard et inventif qu'est Hermès, le monde où nous vivons s'organise. Hermès, dans tous les coins du monde, fait circuler avec sa baguette d'or les biens et les bonnes occasions. Apollon diffuse avec sa lyre les mots qui disent comment tout cela tient ensemble. L'un ne va pas sans l'autre.
Marcel de Tienne.
Hermès passe. C'est un proverbe grec. Écoutons-le. Quand survient un silence dans une assemblée ou dans une conversation, c'est qu'Hermès passe. Il traverse la scène, invisible, silencieux. Chacun sait qu'il est là et déjà il est loin. En marchant dans les pas d'Hermès, ce qui n'est pas facile, car ce dieu aime les effacer derrière lui, en cherchant à voir comment Hermès croise les voies d'Apollon, il est facile de montrer comment les dieux de la Grèce nouent entre eux des liens multiples et constants dans l'espace de la mythologie qui est au cœur de la culture grecque. Contrairement à l'Inde, où les dieux se métamorphosent les uns dans les autres, la Grèce multiplie dans son panthéon les interférences et les facettes qui renvoient d'un dieu à tous les autres. Car le monde est plein de dieux. Derrière chaque geste, il y a un dieu, l'éclair d'un dieu, ou plutôt de plusieurs dieux distincts, mais qui se croisent et s'éclairent mutuellement. Tout cela dans une humanité pour laquelle chaque dieu présente au monde, donc pur de toute transcendance, est d'abord au pluriel.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestutia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Léa d'Auvergne, Benoît Marchand. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Sébastien Royer et le mixage par Pierrick Charles. La semaine prochaine, nous parlerons du dieu des dieux, Zeus, le conquérant. Bonne journée sur France Inter.